voilà, en complément de l'émission donc du mercredi 22 de ce soir, nous recevons Jacques de Toulouse qui n'a pas pu nous atteindre à temps pour témoigner pendant l'émission. Et c'est quelqu'un qui a vécu donc en direct la libération de l'Université de Toulouse et je crois donc qu'il a donc de nombreuses choses à nous raconter. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Alors présente-toi brièvement et puis dis-nous un petit peu ce que tu as pu vivre ces derniers jours dans la ville de Toulouse.
Alors, je suis étudiant à l'université du Mirail, qui n'est pas donc l'université Toulouse 1 qui a été libérée, qui est une université qui est bloquée aussi depuis plus de 2 semaines, presque 3, mais je travaille régulièrement à l'université Toulouse 1 dans les bibliothèques et je fréquente beaucoup d'amis à Toulouse 1. Alors, tout a commencé surtout de la semaine dernière par une assemblée générale qui a posé la question du blocage de l'université. Parce que là, c'était
D'accord.
très sporadique et c'était surtout un petit tractage, des banderoles qui servaient à rien. Et tout a commencé quand ils ont commencé à poser la question du blocage. Voilà. Donc c'était jeudi, non, c'était mercredi 15 qu'a eu lieu cette assemblée générale, pardon. Le jeudi 16, c'est le jour où on a débloqué. Donc mercredi 15, une assemblée générale qui s'est tenue à midi et demi, dans un amphithéâtre de 600 personnes, assemblée qui a réuni à peu près 800 personnes puisque l'amphi était bondé. Pour les personnes qui étaient présentes, je connais pas assez les gens de l'université pour dire qu'elles étaient toutes de l'université ou qu'il y en avait de l'extérieur. J'ai bien vu qu'il y en avait certaines qui venaient de l'extérieur, mais généralement, elle venait soit la plupart de Sciences Po ou de l'université Toulouse 1 quand même. Sciences Po en fait qui est accolée à l'université Toulouse 1, donc c'est très lié, mais qui ne fait
D'accord.
pas partie.
Une petite question pour les auditeurs suisses. Quel est le terreau politique de la région de Toulouse?
La région de Toulouse, la ville de Toulouse est à droite parce qu'elle hérite de Pierre et Dominique Baudis et aujourd'hui. Ça a été Douste Blazy, maintenant c'est Jean-Luc Moudenc-Lemaire, mais la région toulousaine est à gauche. Voilà.
D'accord. Donc
Et
vous avez
les facs
aussi.
toulousaines, à part Toulouse 1, sont à gauche.
D'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé de significatif lors de cet AG?
Alors, lors de cette assemblée générale, c'est un peu comme pour toutes les assemblées générales, un bureau a été élu, des secrétaires, etc. Ce bureau était à peu près équitable. Mais au niveau des présidents, en tout cas, ensuite, quand même, dans les secrétaires, il y avait une majorité de membres de l'UNEF. Après l'élection du bureau, il y a eu des discussions sur l'ordre du jour. Alors, ils voulaient d'abord baratiner un petit peu sur le CPE et présenter le vote sur le blocage à la fin de l'Assemblée générale. Et comme on sait que ce genre d'assemblée dure 2 heures et demie, 3 heures, voire plus. On a d'abord commencé à essayer de faire en sorte que le vote sur le blocage ait lieu plutôt au début. L'assemblée étant à midi et demi, tout le monde serait parti à 14 h pour aller en cours et on se serait retrouvé en minorité sur le blocage. Déjà, on a dû batailler un petit peu pour changer l'ordre du jour. On a finalement réussi. Le vote sur le blocage a été fait à peu près au milieu, aux 2 tiers, disons, de l'assemblée. Mais ça s'est quand même déroulé finalement après 14 h. Donc, pas mal d'étudiants contre le blocage étaient partis en cours déjà. Donc c'est à la fois un défaut de mobilisation et en même temps, j'ai envie de dire, on ne peut pas non plus en vouloir aux étudiants qui vont en cours. Voilà. Et qui ont bien raison de se dire que ça ne sert pas à grand-chose de rester pour pas labrer. Alors finalement, au début de l'Assemblée générale, les anti-blocages, on va dire, paraissaient assez en force. On le voyait dans les acclamations, dans les sifflements. C'était déjà assez tendu, hein, parce qu'on avait déjà entendu parler du blocage plusieurs fois. Et puis l'UNEF, etc., tournait autour de la fac depuis un moment, qui est assez paisible d'ordinaire dont les étudiants ne veulent qu'une chose, c'est travailler. Mais la mobilisation avait commencé au sein de Sciences Po, où là, les syndicats de gauche sont beaucoup plus implantés.
Donc,
Donc,
résultat des courses.
alors, résultat des courses, le blocage a été voté vers 14 h 30. Avec quand même une certaine majorité, puisque je crois que ça a été à peu près 420 voix contre 380, en gros. Voilà.
D'accord.
Donc blocage voté, mais assemblée inique, parce que le vote a été absurde, parce que quand même, comme la main levée, ça a été un bazar indescriptible. Et il a fallu se séparer dans l'amphithéâtre, mettre les pour à gauche, les contre à droite. Ça a duré 1 heure parce qu'il y avait 800 personnes et une chaleur à crever. Après, pour compter, il y avait des personnes qui se baladaient debout sur les tables pour essayer de compter les gens. Mais alors, il y en avait qui comptaient que ceux qui avaient les bras levés, d'autres tout le monde. Plusieurs personnes ont été comptées plusieurs fois. Moi, j'ai pas été compté une seule fois.
Donc vous n'avez pas eu droit à, vous n'avez pas eu droit, pardon, à un vote bulletin secret, ce
Ah
genre
non,
de
non, non,
choses.
pas du tout. C'était main levée, c'était sans contrôler les cartes d'étudiants, et
D'accord.
c'était un peu à l'arrache, quoi. Voilà.
Et ça avait été demandé un vote
Non, et en fait,
classique?
on a commencé à le demander, mais on a été couvert par des huées. De toute façon, dans ces cas-là, s'il n'y a personne dans le bureau de l'Assemblée générale qui a le micro, c'est-à-dire la parole, parce que sans le micro, c'est très dur de se faire entendre dans un amphithéâtre bondé. Dans ce cas-là, on ne peut pas obtenir gain de cause, quoi. Vraiment crier, c'est pas possible, on se fait couvrir. Donc là, ça n'a pas été possible. Donc le vote était assez inique et le blocage a été voté.
Mais vous n'avez pas apparemment accepté ce type de décision.
Non, on n'a pas accepté parce qu'on refuse à la base la légitimité d'une assemblée générale qui, à l'origine, n'est pas faite pour accueillir tous les étudiants, mais qui est faite pour appliquer ces méthodes de gauchistes et qui est faite pour être manipulée. Et en fait, les présidents savent très bien où ils veulent amener les étudiants dès le départ. On sait très bien comment ça marche. Ça fait 5 ans que je suis étudiant au Mirail, je sais comment marche une assemblée générale. J'en ai tous les ans, et tous les ans, elle bloque la fac, pratiquement.
D'accord. Alors que s'est-il passé? Raconte.
Alors, on a très vite décidé, un peu écœuré, à la sortie de l'AG, de faire quelque chose. On s'est donné rendez-vous le lendemain matin à 8h moins le quart à la fac, avec plusieurs amis, et puis avec du bouche à oreille, on a essayé de ramener le plus possible de personnes. On s'est donné rendez-vous à 8h moins le quart, puisque les cours commencent à 8h. Moi, je suis arrivé là-bas à 8h à peu près. Quand je suis arrivé, c'était déjà extrêmement tendu. Je suis arrivé, le président de l'université avait déjà ouvert une porte avec quelqu'un un gardien de l'université, et donc avait en quelque sorte mis les étudiants anti-blocage directement contre les barricades. Voilà. Donc le président nous a ouvert la porte, on s'est retrouvé devant les barricades directement. Là, immédiatement, des bloqueurs qui étaient sortis par derrière, qui avaient ouvert une issue de sécurité derrière nous, se sont mis à tabasser ceux qui essayaient de passer les barricades. Donc les violences ont commencé très vite. Et on va dire que peut-être, je ne sais pas d'où est parti le premier coup, mais en tout cas, ça a commencé très très vite. Voilà.
Donc,
Voilà.
il faut bien comprendre que le président de l'université était opposé, donc, au
Le président de
blocage.
l'université était opposé au blocage, puisque je pense que lui aussi n'admettait pas la légitimité du vote de la veille. Et il nous a donc ouvert une porte pour que tout simplement, je ne sais pas s'il comptait nous laisser parlementer avec les bloqueurs, ou je pense qu'il savait quand même qu'on allait essayer de défaire les barricades. Il savait certainement pas que les bloqueurs allaient réagir de manière si violente, puisque très vite il y a eu des coups échangés. Voilà, les bloqueurs ne se sont pas laissés faire. Et ils étaient environ 120, d'après ce que j'ai pu voir, à l'intérieur de l'université. Ils y avaient passé la nuit. Parmi eux, beaucoup de gens anti-pacifistes, certes, mais aussi une quinzaine d'agités qui étaient prêts à en découdre et qui se doutaient qu'il se passerait quelque chose le lendemain, qu'il pouvait y avoir du grabuge, et qui étaient prêts à se battre. Et ça n'a pas loupé, d'ailleurs.
Et donc, les personnes qui étaient là le lendemain matin et qui voulaient rentrer dans l'université, c'était des gens qui voulaient assister aux cours ou c'était des gens qui étaient là prêts à en découdre et qui voulaient absolument forcer le barrage?
Alors, il y avait des gens prêts à en découdre qui voulaient forcer le barrage, et il y avait derrière tous les gens qui venaient également à 8h pour aller en cours comme tout le monde derrière nous et qui attendaient qu'on passe et qui, il faut le dire, nous encourageaient et attendaient qu'une chose, c'est qu'on passe. Alors
D'accord,
voilà, à
alors.
part.
Dans les médias, pardon, on a entendu que c'était donc une dizaine d'étudiants de droite. Quand on dit étudiants de droite, on sous-entend quand même assez fortement extrême droite, crâne rasé et compagnie, qui avaient pris donc de force, mais victorieusement, l'université et tout ça de haute lutte. Est-ce que c'est vraiment l'impression qui ressort de ça?
Alors, c'est très excessif. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut dire. Déjà, une dizaine, non, on était, disons, 25-30. être déterminés à vouloir forcer le barrage.
Quand même, ouais, d'accord.
25-30, je pense, de bouche à oreille, 25-30 à être assez actif pour passer. Ensuite, dans ces 25-30, il n'y avait aucun crâne rasé, il n'y avait aucun Bombers, il n'y avait aucune barre de fer, aucune batte de baseball, aucune Rangers. Il y avait une bombe lacrymogène, un gars qui avait mis son casque de mobylette, tout simplement parce qu'il y avait des violences et qu'il ne voulait pas se prendre une table ou une chaise sur la tête. Voilà. Et que quand les coups ont commencé à pleuvoir de part et d'autre, un tel a utilisé sa lacrymo, les bloqueurs ont répliqué à coups d'extincteurs qui nous ont vidé dessus, puis nous lancé des extincteurs vides, nous lancé des tables et des chaises dessus. Voilà, enfin, je veux dire, les violences étaient partagées, et c'est à peu près normal que dans ce genre de situation, on ne voit pas comment ça pourrait se passer autrement.
Mais donc,
la différence, c'est que nous, quand même, on revendique une certaine légitimité de cette action, disons, plutôt en force. Cette légitimité vient du fait que le fait d'occuper l'université, la nuit, et surtout pendant les heures de cours, est une agression. C'est-à-dire que c'est illégal. L'assemblée qui avait voté ce blocage est illégitime. Et le droit d'étudier pour un étudiant, c'est le premier des droits. Donc nous, en tant que voulant défendre les libertés des étudiants, on a bien vu que la seule manière de passer, ce ne serait pas de parlementer, mais bien de passer en force, en essayant d'abord d'enlever les chaises et les tables qui bloquaient les passages, puis ensuite en expulsant les personnes qui étaient visiblement violentes et prêtes à en découvrir.
D'accord. Mais ce qui est quand même important de savoir, c'est que vous n'avez pas été les premiers à porter les coups.
Je sais pas, c'est très difficile à dire. Je pense pas, parce que au moment où on a commencé à essayer d'enlever les tables et les chaises enchevêtrées à l'entrée, tout de suite, on s'est pris des coups. Je pense que les premiers coups, sans vouloir être de mauvaise foi, sont venus d'eux, parce qu'ils ont bien vu que s'ils faisaient rien, les barrages n'allaient pas tenir longtemps. On était quand même une trentaine, certes, mais derrière nous, il y avait 250, 300 étudiants, juste collés à nous, qui attendaient, qui nous soutenaient, et qui attendaient qu'une chose, c'est rentrer. Alors certains regardaient les choses, les événements un peu passivement, d'autres se disaient « Oulala, qu'est-ce qui se passe, ça va devenir dangereux », d'autres disaient oh, « C'est bien, on ne peut pas faire autrement ». Enfin, les avis étaient partagés après. Il n'empêche que beaucoup d'étudiants attendaient d'aller en cours.
Et combien y avait-il de bloqueurs ?
Des bloqueurs, je pense, à peu près 120.
Ah, quand même,
ouais. À peu près 120 plus, dont 15-20 assez violents et, disons, d'ultra-gauche, prêts à en découdre. Sachant qu'ensuite, quand ils nous ont vu arriver et que ça a commencé à être un petit peu violent, ils ont appelé des renforts et que des syndicalistes de l'université du Mirail sont arrivés. Je les connais, donc je les ai reconnus.
Ouais. Donc ils sont quand même organisés, oui. Donc ils sont appelés des renforts pour vous tomber dessus.
Ils sont très organisés. D'ailleurs, entre-temps, j'ai retrouvé sur Indymedia des appels des bloqueurs pour demander des renforts.
D'accord. Et alors, comment ça s'est passé ?
Alors, on a essayé de rentrer par l'issue que nous avait ouvert le directeur de l'université, le président de l'université, pardon. Au bout d'un moment, étant donné qu'au fur et à mesure qu'on a enlevé les chaises et les tables de l'entrée, eux les remplaçaient par d'autres parce qu'ils avaient fait toute une chaîne humaine à l'intérieur pour remplacer ce qu'on enlevait, on n'arrivait pas à s'en sortir, on n'arrivait pas à créer une brèche, d'autant plus qu'ils nous vidaient extincteur après extincteur dessus. Qu'au premier étage, un d'eux menaçait de nous lancer des chaises dessus, donc ça risquait de faire des blessés. Donc on a essayé certains groupes d'étudiants ont essayé de contourner encore un peu plus l'université, parce qu'il faut dire que ça, c'était pas l'entrée principale. Donc on a essayé de contourner l'université pour trouver d'autres entrées, d'autres brèches. Et là, on s'est retrouvé finalement en face d'une partie de l'université qui est une espèce de verrière, qu'ils avaient barricadée à l'intérieur également avec des tables et des chaises. Et ils ont cassé une vitre, on a cassé une vitre, il y a eu des jets de pierres sur les vitres, eux nous attaquaient avec des extincteurs depuis l'intérieur par les vitres cassées, nous on essayait de donner des coups de pied dans les chaises et les tables qui bloquaient par les vitres qu'on avait nous-mêmes cassées. Enfin bon, c'est devenu, voilà les dégâts qu'il y a eu, c'est à cet endroit-là surtout qu'ils ont été faits, c'est surtout les vitres cassées qu'il y a.
Mais il y avait absolument...
Il faut bien avouer qu'il y a eu des vitres cassées, c'est vrai.
D'accord.
Il y en a eu 4 en tout, c'est pas non plus énorme, et ça a été remplacé le lendemain, tout avait été remplacé.
Mais il n'y avait absolument aucune présence policière à ce moment-là.
Aucune présence policière. On avait demandé au président de l'université, qui n'était pas très loin, qui suivait les événements du coin de l'œil, qui avait un peu peur pour nous et pour les bloqueurs aussi, parce qu'on ne savait pas comment ça allait se finir, d'appeler les forces de l'ordre. Je crois qu'il l'a fait, et d'après ce que j'ai entendu depuis, les forces de l'ordre à ce moment-là étaient campées deux rues plus loin et attendaient vraiment que ça dégénère pour intervenir, parce que le président de l'université leur avait demandé de n'intervenir que si ça devenait grave. Voilà. Et comme c'est quand même resté dans des limites raisonnables, et qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y en a eu aucun blessé, il y a eu un seul blessé de notre côté, qui était un blessé involontaire, un blessé non lié directement à ces violences.
D'accord. Donc finalement, vous avez eu la chance d'avoir un président d'université qui a quand même du poil au menton, et puis qui vous a laissé un peu faire votre,
faire votre boulot. Ouais, quoi. Mais depuis, ça s'est un peu démenti, parce que depuis, il n'a pas été très clair, il a laissé les gauchistes tenir à nouveau des assemblées générales, il a fait des fermetures administratives de l'université, ce qui fait que certains cours ne se sont pas tenus. Il nous voit un peu, disons, parce qu'il est pris un peu entre deux feux, et
d'accord.
Il essaie de s'en sortir un peu démagogiquement, et c'est pas toujours idéal non plus.
Alors finalement, comment est-ce que vous les avez sortis, les gauchistes?
Alors, donc, je finis sur la ouais. prise de l'université. Finalement, eux se sont sentis vraiment en minorité, disons.
À 120 contre 30, Emma, dis donc.
Oui, contre 30, mais plus les 200 contre 300.
Ils n'avaient aucune chance, ouais.
Disons qu'il y avait une sorte de pression qui les acculait à l'intérieur, et ils ont certainement eu peur, finalement. Donc on les a vus passer des coups de téléphone, se demander... On a commencé à comprendre qu'ils se demandaient s'ils n'allaient pas quitter les lieux. Ils ont eu peur, hein, il faut dire ce qui est. Ils ont eu peur depuis, on l'a su, ils ont vraiment eu peur. Non, il faut dire aussi qu'eux, ils étaient certainement en train de petit déjeuner quand on est arrivé. On n'est pas à ce que directement on tente de rentrer. Bon, ça a plutôt joué pour nous, disons, c'était un peu l'effet de surprise. Donc, ils ont commencé à se demander s'ils allaient évacuer la fac. Ils se sont réfugiés d'abord dans un amphithéâtre à l'intérieur. Et pendant ce temps, nous, on est rentrés. Et au moment où on rentrait, ils sortaient. Voilà. Donc, il n'y a même pas eu de rencontre à l'intérieur de l'université entre les deux camps. On est sorti, on est rentré, on est allé directement vers l'entrée principale de l'université. On a rangé toutes les chaises et les tables qui étaient entassées là, qui étaient cassées. Il faut dire qu'il y a eu quand même quelques dégradations pendant la nuit, apparemment, parce que c'était très sale. Ils avaient fait peut-être la fête la nuit, j'en sais rien.
D'accord.
En tout cas, on a appelé les gardiens de l'université, le président, on a fait rouvrir l'entrée, on a fait ouvrir la grille de l'université au cri de liberté. Alors, ça, je crois que c'est passé aux infos, je l'ai dit.
Mais ça, on l'a vu, ouais, ça, ouais.
Au cri de liberté. Pendant ce temps, les gauchistes un peu décontenancés étaient de l'autre côté de la fac, étaient sortis par derrière. Puis voilà, donc ils ont fait le tour de la fac, ils sont revenus par devant, leur carte d'étudiant à la main, en criant le slogan « blocage pacifiste ». Voilà.
Bon, alors follement pacifiste, ouais, quand même.
Pacifiste alors... pour certains, plus violent pour d'autres, mais bon, ils étaient. À partir de là, le président a décidé de fermer l'université pour deux jours, le jeudi, le vendredi, et la rouverture lundi matin, pour que ça se calme un peu.
D'accord. Et vous n'êtes donc affilié à aucun mouvement particulier, encarté nulle part, c'était vraiment un mouvement un peu spontané d'étudiants, un peu...
Spontané, je crois pas que ça existe, le mouvement spontané. Vraiment, honnêtement, je pense que tous les gens qui sont venus ici, c'était par le bouche à oreille, pour, disons, les plus actifs, les autres parce qu'ils venaient en cours. Voilà.
D'accord.
Donc, disons que la minorité agissante, puisque c'est toujours une minorité qui agit vraiment par le bouche-oreille, la masse des étudiants qui attendaient que la fac ouvre, c'était tout simplement pour se rendre en cours.
D'accord.
Sachant que des professeurs ont aussi participé à la libération. Même ont enlevé des chaises des barrages, se sont pris des tarques, etc.
Entendu. Et est-ce que vous êtes satisfait en général de la couverture média que vous avez eue sur cet événement ?
Ça dépend des chaînes. Et ça dépend aussi, il y a eu une couverture médiatique d'abord sur les journaux de 13h qui a été pas mal pour la plupart des chaînes, assez objective avec des témoignages des deux côtés. Et bon, même si on peut déplorer que ceux de l'UNEF ont dit qu'on avait des barres de fer, ce qui est faux, ou des battes de baseball. Cependant, le soir, ils avaient coupé beaucoup de témoignages de notre côté et c'était beaucoup plus policé. On voit qu'il y avait eu un filtre entre-temps quand même. Il faut aussi dire que sur TLT, la télé locale, c'était nul, qui disait qu'on était des fascistes.
Bon. D'accord.
Pas demander la lune, mais TLT, c'est pas non plus la télévision.
Et vous en êtes où maintenant à Toulouse, alors ?
Alors, on en est où ? Depuis, il y a eu en gros un jour sur deux de fermeture administrative. La plupart du temps, le jour des mobilisations, parce que certainement le président de l'université craignait des blocages intempestifs, craignait... débordement parce qu'il avait peur certainement que des manifestants viennent à la fac se venger, je sais pas. Apparemment, il fermait les jours de mobilisation nationale. et les autres jours, cours normalement assurés.
Et il n'y a plus aucun bâtiment occupé à Toulouse.
Apparemment, pour Toulouse 1, il n'y a pas de bâtiment occupé. Par contre, pour l'Institut d'études politiques, les bâtiments, les cours ne sont pas assurés. En tout cas, même s'il n'y a pas d'occupation à proprement parler, les cours ne sont pas assurés. Il y a des conférences sur le CPE. En fait, il s'est passé quelque chose de malencontreux. C'est que la présidente de l'Institut d'études politiques de Toulouse a fait un référendum, tout simplement, ce qui est plutôt louable, avec urne, vote bulletin secret, etc., donc dans des conditions démocratiques, mais que c'est les pour le blocage qui ont gagné. Et donc elle s'est retrouvée à devoir appeler les militants pour le blocage et leur dire « Venez, venez occuper venez occuper mon institut d'études politiques, vous avez voté pour, maintenant venez l'occuper. » Et donc elle se retrouve un peu idiote à devoir demander à des bloqueurs de bloquer illégalement son propre établissement.
Ah, c'est gay ça. S'il vous plaît, venez bloquer mon université. Voilà. Donc, ça a été vraiment voté tout à fait correctement. Il n'y a pas eu de pression. Tout le monde était loin.
Ça a été voté correctement, mais il y a eu, on peut dire, un déficit de mobilisation contre le blocage d'abord.
C'est ça.
Deuxièmement, ce qu'on appelle Sciences Po, mais qui n'est en fait pas vraiment Sciences Po, l'Institut d'études politiques est vraiment beaucoup plus marqué à gauche que Toulouse 1, qui est droit, sciences sociales et sciences économiques.
Donc en fait, l'action que vous avez menée, elle est réservée exclusivement à votre établissement et à vos cours. Vous n'avez pas l'intention d'aller étendre un peu le mouvement de libération?
Non, parce que pour ce mouvement de libération, il faut quand même compter sur le nombre, obligatoirement. Et dans les autres universités, on n'a pas ça. Il faut dire aussi que les gauchistes sont beaucoup mieux structurés, que ce soit au Mirail ou à Paul Sabatier.
D'accord. Est-ce que vous avez reconnu certaines affiches? Est-ce que c'était des anarchistes ou des LCR ou des jeunes socialistes?
Étant donné qu'il y en a qui avaient la tenue de combat traditionnelle avec Rangers, avec lacets rouges, keffiyeh, cagoule, etc., je pense que la plupart c'était des anarcho-trotskistes, du moins dans les violents.
D'accord.
Voilà. Ouais. Après, les autres, c'était des militants de l'UNEF. Non, ce n'était pas des méchants, mais ceux qui se battaient, c'était des violents.
Il n'y a pas eu de représailles par la suite
Il y a eu des tensions.
D'accord.
Des tensions, des engueulades, mais pas de représailles. Il faut dire que c'était pas non plus ultra violent, il ne faut pas faire une caricature. Ouais. C'était un passage en force. Voilà. Il n'y a pas eu de blessés, c'était pas non plus la fleur au fusil, forcément. On ne peut pas passer une barricade de fleur au fusil. Mais c'était pas ultra violent. C'était un minimum violent, c'est vrai, parce qu'un passage en force, c'est forcément un petit peu violent, et bon, il faut l'avouer.
Entendu. Donc on a vu plein de situations diverses entre Paris et la province. Grenoble a obtenu des décisions légales qui devraient permettre de débloquer les universités qui ne se débloquent pas.
Si le président de l'université appelle les forces de l'ordre, parce qu'il faut le faire appliquer après.
C'est ça. Alors ma question, qui sera la dernière, c'est de savoir... Si vous estimez que la situation que vous avez choisie, disons la solution que vous avez choisie, peut être appliquée à l'ensemble de la France.
Là où les étudiants anti-blocage ont les moyens de se structurer assez pour faire ça, oui, je pense que c'est une bonne solution, sachant qu'il faut être mesuré, qu'il faut pas non plus... et qu'il faut rester mesuré, disons, dans le coup de force. Il ne faut pas que ça joue ensuite contre les anti-bloqueurs parce qu'il y a des dérapages, parce qu'il y a un blessé ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que c'est la meilleure solution parce qu'aucun président d'université, pour l'instant, en France, n'a pris vraiment de responsabilité à part celui de la Sorbonne. Et il est un peu obligé parce que c'est la fac la plus prestigieuse de France et que manque, il a eu des pressions venant de plus haut aussi. Voilà. Et qu'il est obligé d'assurer le standing de son établissement. Mais à part ça, dans les autres universités, quand on voit tous les présidents d'université qui prennent position contre les CPE, qui disent qu'ils sont pour la grève et qui disent qu'ils sont contre le blocage, mais ils le disent à demi-mot, ça incite pas vraiment les étudiants à se mobiliser contre le blocage.
D'accord, et bien écoutez Jacques, on vous remercie bien pour ce témoignage, on vous souhaite en tout cas bonne chance et bon cursus universitaire maintenant que l'université est ouverte. Et puis on compte sur vous pour nous donner des nouvelles régulièrement.
D'accord, merci et bon courage à BAFWeb.
Merci beaucoup, au revoir.
Thank you.